on a un autre gros morceau, c'est ce texte-ci. Il y a de nombreux professeurs de droit constitutionnel qui soutiennent qu'une constitution doit être un texte neutre. En fait, une constitution, on ne doit trouver que l'énoncé des droits et des devoirs des citoyens et la manière dont fonctionnent le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une tendance depuis, allez, je vais dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à inscrire dans les textes constitutionnels des projets de société. Alors, la difficulté, c'est de savoir si ces projets font consensus, s'ils sont portés, s'ils reflètent les aspirations d'une large partie de la population ou pas. Nous allons faire maintenant l'exercice avec ce traité qui n'est pas encore entré en vigueur, qui a encore besoin d'être ratifié. D'abord, il y a cet article 5 dont je suis bien étonné que peu en parlent. Parce qu'au détour d'une phrase, les auteurs de ce traité nous ont donné leur conception de l'État. Les fonctions de l'État que respecte l'Union, c'est assurer son intégrité territoriale, maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité nationale. On a une expression bien connue pour parler de ça, c'est la loi et l'ordre. Lacan, vous savez qu'il est un des élèves de Pierre Bourdieu, a une belle formule pour parler de ça. Il dit, c'est le passage de l'état providence à l'état pénitence. Il n'y a rien sur des fonctions redistributrices, régulatrices, opératrices des pouvoirs publics. Pour eux, le rôle de l'État dans l'Europe future, c'est ça et rien que ça. C'est quand même très intéressant, parce que pour qui se souvient de ce que signifie néolibéralisme, c'est le libéralisme et l'état minimum. L'état minimum, le voilà, le libéralisme, il arrive. Alors, nous sommes en présence de l'article 3. L'article 3 est l'article qui a probablement été le plus évoqué. Je ne vais pas dire cité, parce que bien des gens qui ont pris position en faveur de ce traité, ont parlé du texte sans souvent le montrer. Et moi, je suis assez étonné que chaque fois qu'on me propose un débat contradictoire, que je dis oui, mais avec les textes, ça finit par ne pas avoir lieu. On dirait qu'il y en a qui ne veulent pas parler du texte. Alors, voilà ce que nous pose l'Union européenne. Vous allez voir, c'est très sympathique. C'est un espace pour nous de justice, de liberté, de sécurité, sans frontières, avec un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. Si ça avait été une chanson, vous voyez, 448 articles, c'est un peu long, c'est plutôt des chansons comme on en avait au début du XXe siècle, mais ça, c'est le refrain. La suite, à la suite, est superbe. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe, fondée sur la croissance économique équilibrée, bien, la stabilité des prix, une économie sociale hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations et promeut la justice et la protection sociale. C'est un texte qu'on pourrait signer des deux mains. En tout cas, moi, je pourrais le signer. Je ne mettrais peut-être pas la stabilité des prix à cet endroit-là, mais enfin, bon, cela dit, puis-je me permettre de requérir votre plus grande attention, parce que le moment est solennel, économie sociale de marché, vous le voyez, mais vous ne le verrez plus. C'est qu'une fois. En fait, et je vais vous le montrer, ce texte décline toutes les conditions pour avoir une économie de marché hautement compétitive, mais aucune pour qu'elle soit sociale. C'est un effet d'annonce. C'est tout. Et je le regrette, je ne dis pas ça avec plaisir. J'aurais aimé défendre une constitution digne de ce nom avec une Europe sociale dedans. Mais c'est la seule fois où il est fait référence à une économie de marché qui soit sociale. On a déjà eu la phrase qui revient comme un refrain sur l'économie de marché où la concurrence est libre. Ici, on ne dit plus qu'elle ne doit pas être faussée, mais ça va revenir tout le temps. Et donc, vous voyez, aux fins énoncées à l'article 3, pour réaliser ce beau programme qui est dans l'article 3, les États doivent respecter une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Alors moi, j'ai été beaucoup étonné que quelqu'un que je considère comme assez quand même cultivé, intelligent, Madame Guigou, pour ne pas la citer, qui a été garde des Sceaux, donc qui connaît quand même un peu le droit, qui n'a d'ailleurs pas été un mauvais garde des Sceaux, se soit étonné que l'on s'étonnât que l'économie soit libre et faussée. Peut-être que dans son boulot, elle ne s'est jamais intéressée aux accords de l'Organisation mondiale du commerce. Moi, je ne sais pas si on vous l'a dit tout à l'heure, mais c'est mon boulot. Mon activité principale aujourd'hui, c'est d'être chercheur sur les activités de l'Organisation mondiale du commerce et sur le rôle qui joue l'Europe. C'est d'ailleurs en découvrant ce que l'Europe faisait là-bas, qui était le contraire de ce qu'elle dit ici, que j'ai fait le bouquin qu'on vous a parlé, parce que ça m'a tellement paru scandaleux. Eh bien, si vous allez consulter les accords de l'OMC, vous allez avoir, mais alors, à satiété, la définition de ce que c'est une économie de marché et non faussée. Il y a même tout un accord qui est consacré à ça et qui s'appelle « Accord sur les obstacles au commerce ». Qu'est-ce qui fausse l'économie? Qu'est-ce qui fausse la concurrence? D'abord, les lois ou les règlements que les pays adoptent parce qu'ils veulent orienter leur développement économique ou industriel dans un sens plutôt que dans un autre, parce qu'ils veulent, par exemple, se protéger contre les investissements spéculatifs. Et puis, si on écoute les gens du MEDEF, ou si on écoute les gens de l'UNICE, qui est le MEDEF au niveau européen, qu'est-ce qu'ils disent, ceux, en matière de mesures, c'est le mot qu'ils utilisent, qui faussent la concurrence? Les droits sociaux, les droits environnementaux. C'est ça, une économie où la concurrence est libre, faussée. C'est une économie qui n'est pas entravée par des facteurs, dans le, ça s'appelle des barrières non tarifaires au commerce, par des facteurs qui n'ont rien à voir avec les règles de la concurrence. Je ne vais pas faire une conférence ce soir sur l'OMC, mais rappelez-vous pourquoi un jour un fabricant de fromage de Fort est devenu célèbre. C'est parce qu'un pays a considéré que des mesures prises au nom de la santé publique, c'est-à-dire interdire le bœuf aux hormones de croissance, traiter aux hormones de croissance, étaient contraires à la concurrence. Une économie où la concurrence est libre et non faussée, c'est une économie où un certain nombre de critères de santé publique ne viennent pas fausser la concurrence, par exemple. Et le principe continue. Vous voyez ici, c'est fortement, le texte est un peu plus ramassé. Donc, les États agissent dans le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. On insiste, c'est ça l'économie, mais on ne parle plus d'une économie sociale. Et puis, puisqu'on a des banques, et qu'on a même une banque centrale, pour les banques, c'est pareil. Ben, ça, on le savait. Hein. Par contre, c'est ici que je peux dire, en guise d'exemple, qu'on n'en a pas profité pour corriger les textes existants, vous avez ce que vous avez sous les yeux, qui nous vient de Maastricht. C'était dans le traité de Maastricht. Mais rappelez-vous ce que le président Mitterrand disait à l'époque pour justifier cela, pour justifier l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Il disait que c'était indispensable, il fallait donner cette garantie aux Allemands pour qu'ils abandonnent le Deutsche Mark, qui était fort à l'époque et qui faisait la fierté du peuple. Mais le président Mitterrand disait que c'est une disposition sur laquelle il faudra revenir. En tout cas, 12 ans plus tard, on n'est pas revenu dessus. Et aujourd'hui, nous avons cette situation qui risque d'être consolidée quelques décennies, si ce traité est accepté, où le patron de la Banque Centrale Européenne n'est pas sous contrôle. Monsieur Trichet, puisque c'est l'actuel titulaire, n'a de compte à rendre à aucun des 25 gouvernements. Je ne sais pas si vous le savez, mais son collègue américain, Monsieur Greenspan, s'il décide de baisser les taux ou de les augmenter, ou de ne rien faire, il peut être convoqué par le Congrès, c'est par le Parlement américain, et se justifier des choix qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Essayez de voir M. Trichet aller au Parlement européen, sauf pour les réceptions. Vous ne lirez pas beaucoup, en tout cas pour rendre des comptes des politiques qu'il mène. Il n'est pas sous contrôle. On a enfanté quelque chose de monstrueux et on n'a pas profité 12 ans après pour le corriger, alors que tout le monde était bien conscient que c'était une faiblesse du traité de Maastricht. On n'a pas corrigé son indépendance et on n'a pas corrigé sa mission. Parce qu'encore une fois, si on compare avec la Banque centrale américaine, il y a des missions, allez, je vais dire, d'intérêt général. La croissance, l'emploi, etc. Ici, on est dans du monétarisme pur sucre. La stabilité des prix, et c'est tout. Voilà pour ce qui est du caractère idéologique de ce texte. Alors, j'ai fait un petit inventaire, parce que quand même, la récurrence avec laquelle on retrouve des mots, ça a quand même toujours un sens. Donc, vous voyez que le mot « marché », c'est répété 78 fois, concurrence 27 fois, mais le progrès social n'est cité que 3 fois, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'économie sociale de marché n'est citée qu'une seule fois. On a un texte qui, en fait, est un véritable catéchisme néolibéral.